Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Aujourd'hui, une petite chronique légère et nostalgique. Vous avez déjà vu ces bambins assis dans leurs poussettes scotchés au portable de leurs parents ? Enfin, j'espère qu'il est bien aux parents. Mais j'ai vu pire dans une salle d'attente d'un médecin. Un petit garçon voulait jouer avec ses parents, mais ceux-ci, trop accaparés par leurs téléphones respectifs, l'ignoraient. Alors le petit garçon s'est assis par terre et a attendu que ses parents veuillent bien s'occuper de lui. Mon cœur s'est brisé devant tant de solitude enfantine et je me suis raccroché désespérément au bonheur de vivre de la petite fille que je fus dans les années 1960. Je jouais avec mes frères, je jouais avec mes poupées, avec mes petits soldats et mes petits indiens qui toujours gagnaient la bataille. Je jouais à la marchande et à tant d'autres jeux que m'offrait mon imagination. C'était la vie antérieure de Baudelaire, mise en musique par Duparc et interprétée ici par Gérard Sauzet. Notre 21e siècle caviarde à tour de bras la littérature enfantine. Prenez un club des cinq d'Enid Blyton dans la Bibliothèque Rose édité en 1955 et le même réédité dans les années 2000. On est pris de vertige. Fini le passé simple et le vocabulaire jugé ampoulé et vieilli, selon la traductrice. Pour donner un exemple, le club des cinq et des saltimbanques est devenu le club des cinq et le cirque de l'étoile. Saltimbanque serait-il ampoulé ou péjoratif? Tout ce qui peut paraître rétrograde et stigmatisant est supprimé. Suppression aussi du pronom personnel « nous » remplacé par l'impersonnel « on ». Exit aussi les descriptions et les dialogues jugés trop longs. Suppression aussi de tout ce qui peut paraître politiquement incorrect. Ainsi, Pancho, un jeune forain, est maltraité par son oncle, c'est-à-dire qu'il est un enfant battu. Eh bien, on le supprime. Le gamin a seulement reçu une gifle. Évidemment, on ne comprend plus les motivations des personnages. Dans la foulée, ils ont aussi supprimé la méfiance des forains envers la police. Ah, et puis, ce n'est plus Annie qui pleure ou qui fait la cuisine. Féminisme oblige. Mais nos traducteurs modernes ont oublié tout ce qui concerne le genre. Le Club des Cinq est donc devenu un petit livre abondamment illustré, dans lequel les personnages sont gentils, la méchanceté n'est pas méchante, et les téléphones portables ont remplacé les lettres. Les préjugés n'existent plus. Bref, c'est le monde des bisounours.
Oui, je veux être un bisou, aux gens veulent plein dans le cou, doux comme de la mousse, un bisounours, aime comme tous les bisounours.
Oh oui, je veux être bisounours, c'est tout.
C'est tout? Je serai sans pareil pour faire lever le soleil de derrière la grande ours. De haut mon petit nuage, je recevrai les messages,
les bisounours à la rescousse.
Rien ne rendra plus tendre un caillou, peut-être un bisounours à nous. Frisé comme de la mousse, un bisounours qui fait sourire toutes les primousses.
Primousse.
Je ne veux pas être pilote ou sapeur-pompier, ni même pirate de l'espace ou grand cuisinier.
Je veux être un bisounours, c'est tout.
Je veux être un bisounours.
Regardez-vous parfois les dessins animés actuels pour nos enfants ou nos petits-enfants? Les dessins sont affreux, les dialogues indigents et l'histoire inexistante. Mais peut-être est-ce moi qui vieillis. Enfin, un fait est là. Le théâtre de la jeunesse de Claude Santelli n'existe plus. Et aucun producteur d'émissions pour la jeunesse n'aurait idée de le reprogrammer. Et pourtant, cette émission nous ouvrait des horizons dont rien ne peut donner l'idée aujourd'hui. Je laisse la parole à Claude Santelli.
Il faut enfin ajouter à cette énumération les deux émissions de Claude Santelli. Le livre Mon ami, où il associe étroitement le goût de la lecture à celui de la télévision, et le théâtre de la jeunesse, qui est un succès aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes.
Vous avez deux problèmes en commençant le théâtre de la jeunesse. C'est d'abord un problème de sujet, bien sûr, mais c'est le même en fait. Quel sujet on peut offrir à la jeunesse, et d'autre part, quelle jeunesse je vais toucher. La présence constante maintenant de la télévision dans certaines familles, dans une grande très grand nombre de familles, c'est que d'abord ces différences d'âge s'atténuent. C'est-à-dire que tout à fait normalement, la petite sœur a l'habitude de regarder la télévision avec son grand frère, que ce soit beau, que ce soit mauvais, donc sa curiosité peut-être sera en avance sur ce qu'elle pouvait être avant, lorsqu'elle était vraiment la petite sœur qui était réduite à avoir les fréquentations de son âge. Il y a donc de toute façon quelque chose qui se généralise, je crois une curiosité qui se multiplie, ils sont en contact avec le monde, je ne veux pas dire qu'ils sont plus intelligents, je n'oserais pas le dire qu'avant, mais disons qu'ils ont une curiosité qui est différente, qui est beaucoup plus ouverte, il n'y a pas de doute. Donc, le problème est un petit peu différent aujourd'hui. Alors, d'autre part, il faut trouver des sujets qui puissent, et pour des raisons diverses, bien sûr, toucher des publics différents, des publics d'âge mental différent. J'ai l'habitude de prendre l'image de d'un immeuble. J'appelle ça des sujets à étage. Bon, quand on prend un sujet, je vais en prendre un qui est très caractéristique, que nous avons traité, que j'ai eu le plaisir de pouvoir traiter, qui est un très grand sujet universel, c'est la case de l'oncle Tom, le fameux roman de Madame Bicherstorff. Quand on donne aujourd'hui à des enfants à lire le roman, il faut dire que le roman n'est pas très drôle. Hein. Il est très copieux. Quand je dis drôle, c'est peut-être assez ennuyeux. Je ne dis pas seulement qu'il est tragique. Bon, c'est très copieux, c'est tout de même très dépassé, c'est une littérature un peu larmoyante, mais il y a un merveilleux sujet. Et il y a un merveilleux sujet à étage, je répète, parce que pour des raisons complémentaires. Pour des petits-enfants, même tout petits, la classe de l'amputation la raconte assez bien. Il y a d'abord des ressorts extrêmement simples que n'importe qui peut comprendre, c'est-à-dire le problème de l'inégalité, le problème de la justice et de l'injustice. Vraiment, les gosses très jeunes, ils savent ce que c'est que la justice. Dans une école, si c'est juste ou c'est pas juste. Donc là, ils savent très bien que l'esclave maltraité, c'est injuste, même s'ils n'ont pas compris le problème racial. Donc, disons qu'au-dessus, il y aura des gens, des enfants plus âgés, qui commenceront à comprendre que cette inégalité, que cette injustice est basée sur des raisons raciales ou racistes qui sont discutables et qu'il aimera discuter. Bon, il y a un grand mélodrame dans la case de l'oncle Tom. Il y a une jeune fille qui meurt et qui représentait la justice. Il y a des gens qui sont maltraités. Il y a la présence de la maladie, de la mort, de la souffrance. Ce sont des sujets que peut-être un enfant jeune apprécie, touche plus ou moins. Mais là, on voit que déjà l'éventail s'élargit. Et finalement, au-delà, beaucoup plus au-delà, et là je dirais que ça va très loin, parce que quand je dis théâtre de la jeunesse, ça a toujours été pour moi le théâtre des gens qui ont conservé une jeunesse, évidemment, quel que soit leur âge. Il était très important pour moi de toucher les parents, et même disons de toucher encore une fois tous ceux qui ont encore un petit peu de jeunesse, ça existe malheureusement. Il y avait au-delà des gens qui savent ce que c'est que l'histoire de l'Amérique, ce qui n'est pas donné à n'importe qui savent ce que c'était à cette époque-là, et je dirais même qu'il y a au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas vu tous les étages, ceux qui étaient capables de monter jusqu'en haut, et capables de comprendre que ce problème raciste, qui était vrai en Amérique au 19e siècle avec les esclaves noirs, existe peut-être au-delà du 19e siècle et dans d'autres pays que l'Amérique. J'ai bien là les différents étages dont je vous parle. Et en racontant l'histoire simplement, avec fidélité et avec efficacité, je crois que surtout il ne faut pas escamoter l'un de ces étages. Voilà une des recettes, si je peux dire, de ce thème de la jeunesse. Il était important pour moi d'avoir des grands sujets. Quand on a un grand sujet, il n'y a pas de raison que chacun n'y trouve pas quelque chose à partir du moment où c'est.
Claude Santelli était entré à la RTF, Radio-Télévision Française, en 1955. Il était licencié en lettres et avait enseigné à l'Alliance Française. C'était l'heureuse époque où les gens de la télévision estimaient qu'elle devait être une transmission de la culture, apporter le spectacle chez les gens, telle était leur ambition. Je vous laisse de nouveau avec Claude Santelli.
Dimanche dernier, vous avez vu Gargantua, une production de Claude Santelli. Et bien, au-delà de l'écran, me voici dans le petit appartement de Claude Santelli. Dites, vous avez de la compagnie, il y a des moutons sur les meubles chez vous. Oui, c'est ma chienne Elsie, qui est une fidèle téléspectatrice et collaboratrice. Bien, alors, nous posons la question à la fois à Claude Santelli et à Elsie. Gargantua de Rabelais. Oui. Adapté par Yves Jamiac. Réalisé par Pierre Badel. Qu'est-ce que vous faites, vous, là-dedans, Claude Santelli?
Je suis le fondateur et, disons, le directeur de ce théâtre de la jeunesse. Oui. On m'a demandé de créer ce théâtre de la jeunesse l'année dernière. Le problème était le suivant. Le répertoire pour la jeunesse n'existe pas en France. Il existe peut-être dans certains autres pays. Et d'autre part, il n'était pas question d'utiliser le répertoire dramatique habituel, qui est le lot des émissions dramatiques courantes. Il s'agissait donc de bâtir de toutes pièces un répertoire. J'ai donc demandé à un certain nombre d'auteurs dramatiques, d'auteurs de théâtre, non pas d'auteurs spécialisés dans la jeunesse, ça je n'y crois pas, mais disons d'auteurs de théâtre, de vrais artisans de théâtre, Yves Jamiac, Jean-Louis Roncoroni, Jean Cosmos, Albert Simonin, etc. Il y en a d'autres, bien sûr, heureusement. Je leur ai demandé d'écrire, précisément pour un théâtre difficile, certainement, à écrire. C'est pourquoi ils ont besoin d'écrire, disons, sous ma direction ou en liaison avec moi, parce que la télévision impose un certain nombre de contraintes. Et la jeunesse, telle que je l'entends, c'est une chose qu'il faut également leur définir. Je leur ai demandé d'écrire des adaptations d'après de grands textes classiques. C'est ce que nous essayons de présenter tous les jours.
C'est ça. Vous êtes pleinement producteur. Mais alors, pourquoi Gargantua? Pourquoi La Petite Dorite? Pourquoi Cosette? Et pourquoi pas, par exemple, Blanche-Neige et les Sept Nains ou Cyrano de Bergerac, à supposer que la télévision n'était pas déjà faite?
Oui, c'est très précis. Le problème est évidemment de bâtir un répertoire et de le bâtir dans un certain esprit. C'est ça qui me tient à cœur. J'ai essayé de bâtir un théâtre qui ne soit pas seulement pour les enfants, disons qui, au-delà des enfants, touche, disons, tous les gens qui ont encore une âme d'enfant, plus généralement qui touche ce très large public qui est celui de la télévision. À partir du moment où on a cet instrument, où on s'adresse à 5 ou 7 millions de spectateurs, trouver des œuvres qui puissent, à des titres différents, pour des raisons différentes, toucher tous ces gens-là. Une histoire comme Gargantua peut toucher les petits parce que c'est drôle, un géant doit pouvoir toucher aussi les autres et les grands parce que c'est tout de même l'histoire de la paix et de la guerre. C'est l'histoire d'un homme plus sage que les autres, plus raisonnable que les autres. Nous cherchons toujours à mettre un problème moral, disons, à l'arrière-plan d'une histoire qui est simplement une histoire très simple à comprendre.
Et les grands réagissent comme les petits.
Les grands réagissent beaucoup aussi, oui, les lettres que nous recevons sont autant des adultes que des enfants. C'est ce que nous cherchons au départ. Pour Cosette, par exemple, qui a été incontestablement notre plus grand succès l'année dernière, nous avons eu des lettres de tous les âges, je dirais, et de toutes les catégories de spectateurs.
Et le théâtre de la jeunesse, vous y êtes venu, vous, par le théâtre?
Oui, par le théâtre. J'ai toujours pensé à faire du théâtre. Quand j'étais enfant, je voulais être comédien. Je l'ai été d'ailleurs quelques années. J'ai très vite compris que je ne serais jamais qu'un comédien moyen. Et puis je me suis retrouvé un jour de l'autre côté de la rampe, lorsque Jacques Fabry, en 1954, a fait appel à moi comme auteur. Et nous avons fait trois spectacles. J'ai écrit trois spectacles pour lui, dont La famille Arlequin, qui était un grand succès,
d'ailleurs,
qui est un grand souvenir.
D'ailleurs, votre intérieur est illustré d'Arlequin.
Illustré d'Arlequin, oui. Des Arlequins d'Épinal, parce que j'aime beaucoup les images d'Épinal. J'aime beaucoup tous ces personnages de théâtre que représentent ces images d'Épinal. J'en ai beaucoup autour de moi. Des souvenirs aussi de l'époque Fabry. Et c'est là que j'ai vraiment appris le théâtre. Et j'ai pu, maintenant, dans ce métier de directeur de théâtre, m'ont dû appliquer ce que j'avais appris comme auteur, comme artisan auteur du théâtre.
Est-ce que vous ne dites pas, est-ce que je tiens à dire, c'est que vous étiez professeur de français, même de grammaire.
Oui. Je sais, Lalou disait l'autre jour qu'il est très important d'être professeur pour faire de la télévision. Je crois que c'est très vrai. Comme lui. Ça vous habitue. Moi, j'ai enseigné le français aux étrangers. Et quand on est obligé d'avoir l'esprit très clair pour pouvoir expliquer la règle des participes passés à des vieilles dames américaines, à des jeunes chinoises, à des gens de tous les pays du monde. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. C'est aussi ce que j'aime faire quand je m'adresse à 5 millions de spectateurs, que j'essaie de leur faire sentir ce qu'il y a d'en rappeler dans Hugo.
Eh bien, monsieur le professeur, qui est aussi le producteur de livres Mon Ami, quels sont les conseils de lecture que vous donneriez à un enfant de 10 à 12 ans?
Bon, je lui conseillerais de lire des livres qu'il n'aura pas honte plus tard d'avoir lu, je dirais, n'est-ce pas? Des choses qui ne peuvent pas ensuite lui apporter une déception, qu'il aura autant de plaisir à relire 5 ans, 10 ans et 20 ans après. Ce que j'appelle les livres de toujours, qui ne sont pas nécessairement de vieux classiques, qui peuvent être aussi bien des livres d'aujourd'hui, écrits par des auteurs d'aujourd'hui. Ce sont les livres que nous présentons toujours en fin d'émission. Un livre, Mon Ami, ça va depuis Le Vieil Homme et la Mer et Le Petit Prince, pour parler des modernes, jusqu'à Homère, en reculant dans le temps.
Et vous, Claude Santelli, quels sont les livres qui sont vos amis?
Eh bien, précisément, je crois que ce sont les livres qui m'ont beaucoup frappé quand je les ai lus enfant ou très jeune. Des livres que je n'oublierai pas, des livres comme Dickens, comme Homère, comme Molière, comme Hugo, précisément ce genre de livre que nous essayons de présenter à ce vaste public, mes amis, dans le théâtre de la jeunesse.
Il n'y a rien à rajouter. Mais avant de tourner la page, Claude Santelli, je tiens à vous faire écouter la présentation du capitaine Fracasse, présentée dans le théâtre de la jeunesse. Une nouvelle fois, Santelli montre sa volonté de donner à tous les âges une culture pour embellir la vie.
Il y a 100 ans à peu près, Théophile Gautier se résignait enfin à écrire ce Capitaine Fracasse, dont nous allons essayer aujourd'hui de vous présenter quelques images, et dont il parlait depuis 30 ans. Oui, pendant 30 ans, il n'avait pas eu le temps de l'écrire, il avait tant écrit, rêvé, vécu, mais bientôt, pressé par le besoin, il se décida à noircir chaque jour quelques feuillets qu'il allait fidèlement porter chez le caissier de son éditeur qui lui remettait 20 francs en échange de chaque page. Pendant 30 ans donc, il avait vécu avec ses images dans la tête, avec ses personnages dans l'esprit, avec l'idée de faire revivre des personnages de l'époque du roi Louis XIII. Pourquoi le roi Louis XIII? Pourquoi plutôt, il faudrait dire, pourquoi tous ces écrivains de cette époque, les grands écrivains romantiques, ont-ils été tellement inspiré par l'époque du roi Louis XIII et Victor Hugo et Dumas avec ses trois mousquetaires et tant d'autres? Eh bien parce que c'est une époque vivante par excellence. Une époque où l'aventure semble partout avec ses grands chapeaux à plumes, ses manteaux couleur de muraille, ses complots, ses duels, beaucoup plus que l'époque du roi Louis XIV, ensuite ce roi Louis XIV qui a assagi toute chose, qui a donné la mesure et la règle aux hommes comme aux arbres bien taillés des bosquets de Versailles. Donc, Gautier rêvait de mettre en scène, de faire revivre des personnages de l'époque de Louis XIII. Il rêvait aussi, il était fasciné aussi par l'idée de faire revivre des comédiens. Oui, les comédiens de toutes les époques, je crois, se ressemblent. Évidemment, aujourd'hui, nous voyons surtout la vedette. La vedette qui remplit les pages des journaux de ses confidences plus ou moins fausses, de ses photographies. Nous avons un peu oublié ces comédiens en troupe qui sillonnaient les routes de France, traînés par un cheval squelettique comme celui dont vous allez entendre parler tout à l'heure. Mais pourtant, je crois pouvoir dire que les comédiens d'aujourd'hui sont très proches de ceux des siècles passés. Ils ont finalement les mêmes angoisses, les mêmes joies, la même vie. L'angoisse de jouer une pièce pour la première fois devant un public. La joie de voir ce public rire et pleurer. La joie simplement de se retrouver chaque jour pour 2 heures, de partager cette joie collective de jouer la même pièce. C'est en cela que cette histoire, je crois, est une histoire toujours vivante, l'histoire de l'amitié d'un homme pour des comédiens qui représentent l'aventure et la fraternité. C'est, je crois, la morale de cette histoire, cette morale d'amitié, cette morale de vie. Et Gautier a l'air de nous dire, comme il dit au baron de Sigognac, « Ne regardons pas la vie par la fenêtre, ne restons pas dans nos pantoufles, mais sortons, vivons, courons, partons, allons à la découverte de cette vie aussi colorée, aussi pleine de bruit que ce nom, le capitaine Fracasse. »
Encore une fois, je remarque que ma génération était moins éloignée de celle du 19e siècle que de celle d'aujourd'hui. Je relis dans Portrait contemporain de Théophile Gautier ses souvenirs d'enfance qui ne diffèrent que très peu de ceux que je peux avoir. J'ai su lire à l'âge de 5 ans. À ce propos, qu'on me permette de placer une courte anecdote. Il y avait 5 ou 6 mois qu'on me faisait épeler sans grand succès. Je mordais fort mal au babubibobu. Lorsqu'un jour de l'an, le chevalier de Port-de-Guy me fit cadeau d'un livre fort proprement relié et doré sur tranche, et me dit « Garde-le pour l'année prochaine, puisque tu ne sais pas encore lire. »« Je sais lire !» répondis-je, pâle de colère et bouffi d'orgueil. J'emportai rageusement le volume dans un coin, et je fis de tels efforts de volonté et d'intelligence que je le déchiffrai d'un bout à l'autre, et que je racontais le sujet au chevalier à sa première vie. Ce livre, c'était Lydie de Gersin. Le sceau mystérieux qui fermait pour moi les bibliothèques était rompu. Deux choses m'ont toujours épouvanté. C'est qu'un enfant apprit à parler et à lire. Avec ces deux clés qui ouvrent tout, le reste n'est rien. L'ouvrage qui fit sur moi le plus d'impression, ce fut Robinson Crusoe. J'en devins comme fou. Je ne rêvais plus qu'île déserte et vie libre au sein de la nature, et me bâtissais sous la table du salon des cabanes avec des bûches où je restais enfermé des heures entières. À travers tout cela, sous la direction de mon père, fort bon humaniste, je commençais le latin et à mes heures de récréation, je faisais des vaisseaux correctement gréés d'après les eaux-fortes d'Ozanne que je copiais à la plume pour mieux me rendre compte de l'arrangement des cordages. Que d'heures j'ai passé à façonner une bûche et à la creuser avec du feu à la façon des sauvages. Que de mouchoirs j'ai sacrifiés pour en faire des voiles. Tout le monde croyait que je serais marin, et ma mère se désespérait par avance d'une vocation qui, dans un temps donné, devait m'éloigner d'elle. Ce goût enfantin m'a laissé la connaissance de tous les termes techniques de marine. Un de mes bâtiments, les voiles bien orientées, le gouvernail fixé dans une direction convenable, eut la gloire de traverser tout seul la Seine en amont du pont de Ferry. Jamais triomphateur romain ne fut plus fier que moi. Au vaisseau succédèrent les théâtres en bois et en carton, dont il fallait peindre les décors, ce qui tournait mes idées vers la peinture. J'avais attrapé une 8aine d'années, et l'on me mit au collège Louis-le-Grand, où je fus saisi d'un désespoir sans égal que rien ne pouvait. La brutalité et la turbulence de mes petits compagnons de bagne me faisaient horreur. Je mourais de froid, d'ennui et d'isolement dans ces grands murs tristes où, sous prétexte de nous briser à la vie de collège, un immonde chien de cour s'était fait nourrir. Quant à la nourriture du réfectoire, mon estomac ne pouvait la supporter. Je dépérissais si visiblement que le proviseur s'en alarma. J'étais là-dedans comme une hirondelle prise qui ne veut plus manger et meurt. On était du reste très content de mon travail, et je promettais un brillant élève si je vivais. Il fallut me retirer, et j'achevais le reste de mes études à Charlemagne en qualité d'externe libre, titre dont j'étais extrêmement fier, et que j'avais soin d'écrire en grosses lettres au coin de ma copie. Mon père me servait de répétiteur, et c'est lui qui fut en réalité mon seul maître. Si j'ai quelque instruction et quelque talent, c'est à lui que je les dois. Je fus assez bon élève, mais avec des curiosités bizarres qui ne plaisaient pas toujours au professeur. Pendant que je faisais ma rhétorique, il me vint une passion, celle de la nage, et je passais à l'école petite tout le temps que me laissaient les classes. Parfois même, pour parler le langage des collégiens, je filais et passais toute la journée dans la rivière. Évidemment, je sais bien que Gautier appartenait à la petite bourgeoisie, ce qui lui permit d'avoir une enfance heureuse, ce qui n'était pas le cas pour les enfants d'ouvriers dans ces années 1820. Mais lorsque j'étais enfant, cette injustice était toujours là. Les enfants mouraient sous les bombes pendant qu'insouciante je jouais à la marelle avec mes petites camarades. Et aujourd'hui encore, de petits enfants meurent noyés dans la Méditerranée, meurent sous les bombes ou meurent de faim par la volonté des spéculateurs, pendant que d'autres jouent sur leur téléphone portable. Rien ne changera donc jamais. En fait, il y avait très peu de légèreté dans ma chronique. Allons, je clôt cette émission avec un très beau morceau de piano composé par Schumann, Scène d'enfance. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.